اسمي فواز باقر، نحن في استوديو مع بيتر بروك للاستماع لبرنامج حياة فنان مع أوريلي شارون. Je vais commencer par dessiner la vieille ville et évidemment la citadelle qui est en plein milieu, qui était le capitole de la ville. Je l'ai dessiné en rond, il est un peu ovale. Tout autour, il y a le muraille ancien. Il y a les quartiers vers le nord. Et puis, il y a toute la nouvelle ville qui s'étend vers l'ouest. Il y avait les souks, 13 kilomètres de souks couverts. Mon dernier quartier à moi, à Alep, avant de partir, c'était plutôt au nord, dans le quartier qui partait de la porte nord, Bab al-Nasr, la porte de la victoire, soi-disant. Et puis j'ai abandonné cette maison que j'étais en train d'aménager comme une école de musique, un lieu d'échange entre plusieurs cultures musicales, chose que j'ai pas réussi à faire dans le conservatoire officiel de la ville. Voilà.
Là, on est au-dessus du plan de la ville d'Alep, Fawaz Baqer. Oui. Elle était où présente la musique dans la ville ?
Partout, réellement. Surtout dans les églises et dans les mosquées, mais partout. Il y a trois passions pour les Alépins : l'architecture, manger, la cuisine et la musique. C'est la vie.
Vous avez les trois ?
Oui, j'aime bien les trois. Je suis un vrai Alépin. Hein.
Et il était où le silence dans la ville ?
Ah, le silence, là où il y a la musique, il faudra absolument avoir le silence, hein, parce qu'il n'y a pas de musique sans silence. Mais c'est vrai que c'était une ville bruyante. Mais depuis la guerre, je pense que le silence est parti ailleurs. Le plus grand problème de la guerre, c'est que le silence disparaisse. Dans tous les sens du terme, hein, c'est pas seulement à cause des armes. Hein. C'est qu'il y a beaucoup trop de bruit aujourd'hui, bruit politique, bruit idéologique, bruit... Beaucoup. Dissonance, beaucoup. De temps en temps, la dissonance peut être bien, mais quand il y a trop, ben voilà, ça donne la guerre. Donc le silence, pour moi, aujourd'hui, le silence, il est à Paris, oui. C'est pour ça que je suis venu chercher le silence à Paris.
Immobile,
oui.
Et
silencieux. Et ça, le théâtre.
Et ça serait le théâtre.
Quelque part, le théâtre se ramène, si vous voulez, enfin pour moi, mais là on part dans l'imaginaire, à une idée de comment dire, de... C'est une représentation du monde, et au départ, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a la scène vide.
Au départ.
Au départ.
Nos vies manquent de silence. Elles manquent du bon silence. Pas un silence de mort, mais un silence de vivant. Un silence qui donnerait envie aux mots d'arriver encore, même si on les a déjà trop tous utilisés. On a perdu la partie quand on ne parle plus que pour répondre ou que pour réagir. On a gagné quand on recrée du vide avant de parler. À 92 ans, Peter Brook choisit d'écrire sur les mots, sur la langue, ou plutôt deux langues, l'anglais et le français. Dans sa vie et pour Shakespeare, il a travaillé les deux. Depuis toujours, il pense que c'est le vide qui doit accompagner la présence d'un acteur, qu'il faut habiter des lieux sans discours, refuser nos décors tout faits. Peter Brook écrit dans son nouveau livre « En anglais, on dit les mots, en français, on dit la pensée ». Et il poursuit cette question éternelle « Comment on peut être écouté ?» à une époque où on n'est plus choqué ni par les conflits, ni par les scandales, ni par le sang. Comment on se fait entendre ? Il faudrait agir dans le négatif, à contre-marée, poser de l'espoir quand il n'y en a pas. Fawaz Baqer, lui, est architecte, aussi amoureux du vide et musicien en Syrie. Il aime dire qu'on ne peut pas avancer sans dissonance. Il aimerait presque réhabiliter les fausses notes, parce qu'après tout, qui a décidé que certains sons n'auraient pas le droit d'exister ? Quand il dirigeait le conservatoire d'Alep, il tentait avant tout, avant la musique, de faire du silence dans un endroit qui n'en offrait plus. Face à un groupe d'acteurs qui avait construit un lieu, Peter Brook a posé une question. Il a dit « Et maintenant ? Qu'est-ce qu'on dit dans cet espace ?» C'est la responsabilité des vivants, comme il dit, de réussir à faire silence, un silence de vivant pour préparer le mot qui lui sera juste. Peter Brook, on en parlera, mais il y a un mot que vous aimez bien et qui vous amuse dans la langue française, c'est le mot « normalement ». Pourquoi ?
Non, c'est quelque chose qui me fait rire, au contraire. On utilise « normalement » comme si on avait vécu une époque où tout était à sa place. Et c'est comme un rêve d'un idéal. Quand on dit « normalement », c'est un rêve. C'est une expérience aucun d'entre nous n'a jamais vécue. Mais ça ouvre en même temps cette espèce de désir que les choses tombent un peu mieux à leur place. Et dans la langue, la musique, c'est l'harmonie. Dissonance ou un moment où des instruments différents, des diapasons différents trouvent pour un moment une harmonie, une relation vivante.
L'anglais d'adoption Peter Brook a mis en scène à Paris La chatte sur le toit brûlant et en Angleterre Titus Andronicus, qui nous fut d'ailleurs montré dans le cadre du Théâtre des Nations. Il se signale par des qualités d'invention, des dons multiples et de la combativité.
Monsieur Peter Brook, vous avez combien d'années de metteur en scène derrière vous ?
Douze ans.
Mais vous avez commencé presque au berceau alors, si j'ose dire. Au point de vue Shakespeare, avez-vous l'impression qu'on peut encore faire quelque chose pour un metteur en scène ? Je veux dire par là, est-ce qu'on n'est pas un peu esclave des traditions ? Parce qu'il en est, pour Shakespeare comme pour Molière, il y a des traditions qui sont établies.
Non, c'est le contraire. On crée les traditions avec chaque nouvelle mise en scène. Mais surtout, chez nous, heureusement, j'ai commencé à travailler il y a 10 ans à Stratford et à cette époque-là, il y avait des traditions. Et heureusement, je crois qu'on a détruit maintenant toutes les vieilles traditions. Personne ne les attend plus. On est absolument libre de recréer. Et maintenant, c'est absolument nécessaire parce qu'on joue Shakespeare tout le temps en Angleterre. Et la seule façon de ne pas ennuyer le public, c'est de faire quelque chose de différent chaque fois.
Peter Brook, c'était votre voix en 1957. Est-ce que vous êtes le même aujourd'hui quand vous vous entendez ? Vous avez l'impression d'être le même ?
J'espère que non. J'espère que quelque chose se renouvelle à chaque instant. C'est très très dur de sentir ça comme un défi permanent, mais c'est la seule chose à laquelle on puisse vraiment faire confiance. C'est exactement là, on est inséparable de l'exemple donné par le musicien, où chaque note n'existe ni dans le passé, ni dans l'avenir, mais au moment où ça vibre. C'est vrai, non ?
Ben oui, tout à fait.
Peter Brook, dans ce nouveau livre, dans le prologue, vous parlez d'une petite voix, ou en tout cas une voix qui, depuis tout jeune, vous dit « Ne prends rien pour acquis, va toujours vérifier par toi-même ».
Absolument.
C'est ça qui vous a fait vivre 1000 vies, comme vous dites, et aller dans des endroits complètement différents.
Mais on n'est pas seul. Si je dis tout vérifier par soi-même, grâce à tout ce qui nous guide, donné par des voix qui viennent du passé, des voix qui... C'est pour ça qu'on est toujours être d'une manière absolument simple contre le racisme, parce que c'est tout simplement une bêtise. Pire qu'une bêtise, une stupidité ubuesque. Mais par contre, si on se rend compte qu'à chaque instant, on est attiré par quelque chose qui est au-delà de tout ce qu'on aurait pensé comme acquis une chose dont on est convaincu quelques secondes avant. Alors là, on est guidé tout le monde à chaque instant et on peut faire le mieux possible pour suivre ce qui est ce guide invisible et permanent.
Et ça, c'est très lié à l'expérience du voyage ?
Oui. Ah oui. J'ai toujours adoré voyager parce qu'avec tous les avantages qu'il y avait, être né à un certain moment, c'était au début de la guerre en Angleterre, quand même, on y voit, hélas, avec cette horreur de Brexit, que dans l'Angleterre, le fait qu'Angleterre a pu survivre parce que c'est une île et ne fait pas partie de cet immense continent que nous avons devant nous, en même temps, on croit que le reste est inférieur. Et quand je commençais à travailler, j'étais très étonné à voir à quel point, dans le théâtre par exemple, on était complètement fermé, on niait même l'existence d'un théâtre en France, en Allemagne, en Russie. On disait, oui, on dit que c'est très bien, mais on est complètement fermé à ces influences. Et pour moi, la chose la plus importante, et c'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé, parce que tout est expérimental, et finalement, je suis venu en France et à Paris, qui à cette époque était vraiment le centre de la culture européenne. C'était le rêve de tous les Russes de venir ici, les compositeurs, les peintres, espagnols, italiens, tout le monde venait à Paris, et là, ce sentiment d'admiration, de respect et d'écoute était tout à fait naturel.
Et pourquoi aujourd'hui vous avez eu envie d'écrire sur les mots, sur le langage et sur le voyage dans la langue, entre le français et l'anglais ?
Le livre n'est pas sur... C'est une partie, la première partie, c'est le français et l'anglais, mais c'est un sens que je cherche, qui est toujours là, et qui est là dans toutes les langues, ce qu'on peut appeler « the meaning ». Quel est le sens réel ? Et là, je prends continuellement tout le livre vers Shakespeare, où on voit que toutes les théories sur Shakespeare, tout ce qu'a écrit tous les professeurs, y compris la pire des bêtises, qui était Shakespeare, qui l'a écrit, tout ça disparaît quand on est devant le fait qu'il y a dans chaque mot, il y a une richesse, moi je l'appelle le skyscraper. Dans cet immense édifice, si on est ouvert, si on a en nous, tranquillement, un petit espace vide, quelque chose peut commencer à vibrer au moment même où on pense les mots les plus simples. Et j'en parle dans le livre quand je parle de le formless hunch, le pif sans forme, où à certains moments, on écoute et on laisse tout tomber et quelque chose qui vient pas de nous, mais nous traverse comme une lumière qui illumine ce qui est là. Et avec la grandeur des pièces de Shakespeare, c'est quelque chose qu'il faut accueillir à chaque instant. Et c'est pour ça que quand on le renouvelle, c'est vraiment la pire des choses. Je parle pour les jeunes qui facilement entendent quelque chose comme ça et ont l'idée qu'il faut introduire des idées de contemporaines. C'est pas ça. C'est pas en ajouter une image, un peu de vidéo, quelque chose d'aujourd'hui que quelque chose est renouvelé. Ce qui est renouvelé est la qualité de cette écoute où subitement quelque chose tout à fait d'une autre valeur, d'une autre qualité puis sauter. Et je crois qu'il n'y a aucune différence là entre ce qui se passe là et la musique. Comment vous le sentez?
On parlait de silence avec Fawaz Bakar au début de l'émission. Le silence, il arrive très vite d'ailleurs dans le livre Peter Brook. Il est complètement indissociable des mots.
Non, le silence et l'espace sont deux choses qui sont tout de suite... Il faut qu'on fasse même ici très attention parce que si on en parle... Il n'y a plus de silence, il n'y a plus de vide, il n'y a plus de silence. Mais si on peut pour un moment sentir, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Il y a deux silences ». Il y a le silence évident, qui est un silence inerte, du plomb, et rien ne se passe. Mais si on sent que au début de tout, et on ose dire peut-être au début de la création du monde. Tout sortait d'un vide, mais ce vide était un vide palpitant, un vide vraiment vibrant de potentiel. Et dans une des traditions africaines, leur histoire de la création, parce qu'il y a 50 000, est que dans le vide absolu, à certains moments, il y avait un son. Nous disons, Dieu, il y avait la parole. Ça, moi, j'aime mieux la pureté de cette expérience que sortant du vide, mais pas une vide inerte, mais une vide qui est le potentiel. Et dans ce vide potentiel, ce silence prête à vibrer, subitement, il y a une vibration qui crée un son. Et à partir de ce son, tout le reste, toute la création suivait. Ça, c'est pour moi, c'est l'Afrique, une des traditions africaines.
Fawaz Bakar, dans votre travail à la fois d'architecte et de musicien, vous parlez beaucoup du vide et du silence. Vous construisez autour de ces deux idées.
Oui. Ben, je suis très content de retrouver que ma religion existe par ailleurs en Afrique, parce que je suis un adepte de ce silence du départ. Et je crois beaucoup dans ce silence de départ prometteur et qui va nous emmener vers le silence de la fin, qui est aussi prometteur. Donc, pour moi, la vie, le silence d'ailleurs, pour moi, c'est pas l'absence. Le silence, c'est d'être à l'écoute.
Oui.
C'est un acte humain, le silence. Ce n'est pas un acte naturel. C'est pas un acte qui concerne la nature. Le silence nous permet d'être à l'écoute de la nature, justement, à l'écoute de ses énergies. Le problème du bruit, le problème du blabla, du remplissage de l'air avec des ondes inutiles, c'est que ça nous empêche de capter l'essentiel dans la vie, qui est cette énergie, comme vous vous disiez tout à l'heure, qui traverse. Je me refuse consciemment d'analyser cette énergie parce que ça m'empêche de vivre. Et par contre, je m'impose beaucoup de silence et j'impose un certain silence parce que pour justement être à l'écoute tout le temps de ça.
On va écouter Peter Brook, votre voix. On est toujours en 1957.
Au point de vue des corps, comment pouvez-vous résoudre la question? Car une des grandes difficultés de Shakespeare, c'est la multiplicité des tableaux.
Ouais.
Est-ce que vous conservez des décors ou un lieu qui sert pour toutes les scènes?
Moi, je fais toujours mes décors moi-même pour Shakespeare, tout simplement parce que je veux que le décor sert l'intention dramatique et je veux pas là-dedans la collaboration d'un artiste qui arrive avec son esthétique à lui, qui est peut-être très, très beau, mais sert pas les intentions de la pièce. Et je cherche jamais une solution décorative, un décor, je cherche ce qu'on pourrait nommer une solution pour la pièce. C'est-à-dire qu'il y a des pièces de Shakespeare où la solution, à mon avis, c'est une construction, peut-être, pour faire sortir les idées essentielles de la pièce, une construction, un échafaudage peut servir. Il y a des autres
des éléments d'architecture, par conséquent.
Il y a des autres pièces où on trouve votre solution à vous pour cette pièce, c'est peut-être une scène vide.
Peter Brook, dans le livre, vous décrivez une expérience après 68, parce que vous venez en France et vous rencontrez un groupe d'acteurs qui ont adhéré à toute la libération en 68, qui réfléchissent à remettre les choses à plat et qui se disent, pour faire du théâtre, il faut qu'on invente un nouveau lieu, ou en tout cas pour des nouvelles formes, il faut qu'on nous-mêmes on soit artisans d'un nouvel endroit. Ils partent en Suisse, ils construisent un grand dôme qu'on peut transporter pour faire du théâtre. Et ensuite, là, vous leur posez la question, mais et maintenant, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Et finalement, la forme avait pris un peu trop de place sur le fond, sur ce qu'ils voulaient raconter. Pourquoi c'était important cette histoire pour vous?
Je crois que ça, ce que vous racontez, vous exprimez merveilleusement bien la différence qu'il faut reconnaître directement dans l'expérience vécue entre la forme extérieure, le vide extérieur et le vide intérieur où est née d'autres formes. Et que si on est trop préoccupé si facilement, si on tombe amoureux d'une forme et on croit, ah, je suis artiste, je veux créer cette forme. J'ai vu ça tragiquement avec des architectes de théâtre qui pensent pas du tout à l'expérience vivante qui veut aider à apparaître, mais ne pensent qu'à ce que vont dire les autres architectes qui vont dire, ouh, sa manière de lier un triangle avec un carré, c'est génial. C'est pas ça qui est en question. Ça sont des supports nécessaires, les piliers qui sont indispensables. Mais ce qui compte là, et ce qui dans cette histoire tragique que je raconte, toutes ces gens, 68 avec les meilleures intentions, des jeunes avec un talent, un dévouement extraordinaire, étaient tombés dans l'hypnotisme donné par la forme. Et la forme domine. Mais si on sent que la forme, ce n'est qu'un pas vers quelque chose d'inconnu et d'invisible. Pour moi, tout est dans le mot invisible. Nous sommes là, nous, pour aider, être au service que parfois l'invisible devient palpable.
Quand vous venez jouer la première fois à Paris, vous racontez aussi ce moment où quelqu'un dit « mais je comprends rien, je comprends pas ce que dit l'acteur », alors que pourtant c'est un acteur de la Royal Shakespeare Company qui sait très bien parler anglais et dire Shakespeare. Comment vous expliquez que là, on n'entendait pas ici en France ce qui se disait en anglais? Qu'est-ce qui se passait dans la langue?
Il y a des choses de base, comme dans la cuisine, comme dans l'architecture, il y a des choses de base qui sont évidentes. Il faut que l'acteur soit compréhensible, il faut qu'il étudie une bonne articulation. Tout ça, c'est le point de départ. Mais que finalement, ce n'est pas ça qui compte. C'est ce qui informe, donne vie à la parole. Et là, c'était pas suffisant d'avoir une articulation parfaite. C'était que quelque chose d'autre passe. Et dans l'histoire que je raconte, tout simplement, l'acteur était tellement encouragé à utiliser toute la technique qu'il avait apprise, que finalement, quelque chose d'autre n'arrivait pas à pénétrer et à toucher le public.
Et vous êtes rendu compte qu'en anglais, on disait les mots et en français, on disait la pensée.
Ah oui, ça c'est la grande différence entre les deux langues. Il faut que je le...
Pardon, petit problème de téléphone.
C'est le
vôtre?
C'est le mien. Exemple parfait de ce que c'est le silence et ce que c'est le bruit.
C'est dur de faire le silence, hein.
Voilà. Ringer off.
Parfait.
Okay. Dans la langue anglaise, et c'est une question de rythme, dans le grammaire anglais, le mot principal dans une phrase est rarement le dernier mot. Alors dans ce cas, quand on parle, chaque fois qu'on parle, comme moi je le fais en ce moment, on improvise et on peut savourer un moment, on peut s'arrêter et laisser vibrer un mot au milieu, vers le début, presque à la fin. En français, il y a cette pensée qui est une des forces, mais en même temps qui change la nature de la langue. En français, dès le début, les enfants sont obligés de dire réellement exactement ce qu'ils veulent dire. Et pour ça, dans la langue où la structure est que le sens est dans le dernier mot, si je dis le sens est dans le dernier mot, ce serait intolérable pour un français. En anglais, je peux très bien savourer ça. But the word is truly, not at the end. C'est un autre rythme parce que on parle continuellement de cette possibilité de savourer le moment même. Et en français, c'est ça qui donne la clarté et surtout la rapidité de la pensée française qui est reflétée par la rapidité. Les Français parlent infiniment plus vite. Et les acteurs, quand la Comédie française est venue tout de suite après la guerre pour la toute première fois en Angleterre, c'était la rapidité des acteurs qui était tellement admirée par les Anglais. Parce qu'il y avait ce qui rendait, surtout pour la comédie, cette brillance et cette clarté qui sont caractéristiques des choses merveilleuses dans la langue française. En anglais, il y a d'autres qualités.
Et quand vous rouvrez ce théâtre abandonné qui était les Bouffes du Nord au début des années 70, vous préparez Timon d'Athènes.
Oui.
Et là, vous vous rendez compte de façon painfully clear, c'est marqué dans le livre comme ça, de façon un peu douloureuse, que justement les Français, qu'il y a une différence entre l'anglais et le français, et que les Français parlent beaucoup trop vite.
Mmh. Oui, oui.
Et vous rencontrez Jean-Claude Carrière, qui va devenir le traducteur de Timon d'Athènes, et on écoute sa
une
voix.
Une collaboration qui dure, et une amitié profonde qui dure jusqu'à aujourd'hui.
Mais j'ai essayé de trouver à l'intérieur un rythme invisible qui aide beaucoup les acteurs et qui en même temps donne au langage une structure particulière, encore une fois, hors de l'ordinaire. Mais le plus gros point en ce qui concerne la traduction ou l'adaptation de Shakespeare est de bien être conscient du fait que, pour des oreilles anglaises aujourd'hui, Shakespeare inévitablement sonne archaïque, un peu comme si nous jouions du Montaigne, ou un auteur de la fin du français, de la fin du XVIe siècle. Donc l'erreur serait, fondamentale, serait de traduire Shakespeare comme pour un spectateur français du XVIe siècle. Onque ne vit jamais pareil, gentes dames, par exemple. D'utiliser ce langage-là. Le gros avantage que nous trouvons, que Peter trouve par exemple, il a dit un jour que le plus bel Hamlet qu'il ait entendu, c'est celui de Pasternak en russe, parce qu'il s'agissait d'une très belle langue russe d'aujourd'hui, manié par un grand écrivain russe. Donc le gros avantage, c'est que la nécessité de nous adresser à un public d'aujourd'hui fait que par obligation, toute forme archaïque tombe d'elle-même.
Peter Brook, vous avez réussi à trouver avec Jean-Claude Carrière une façon de traduire Shakespeare qui allait à l'encontre de l'idée que l'écriture poétique peut être un peu fleurie ou un peu chantante. Au contraire...
Oui, c'est très important. Il y a un vrai malentendu créé par ce mot poétique. Parce que si on regarde toutes les pièces de Shakespeare et toutes les phrases, en commençant avec « to be or not to be », qui a touché le monde entier, toute phrase qui touche en Shakespeare est faite. Une phrase est comme une phrase tout à fait naturelle. Il n'y a rien, comme dit Jean-Claude, il n'y a rien d'archaïque dans la manière de s'exprimer. Même si c'est écrit à une époque il y a plusieurs siècles, c'était un langage d'une certaine manière que n'importe quel enfant pourrait comprendre parce qu'il y avait une complexité de pensée et tout le reste derrière, mais les phrases... Et Jean-Claude a inventé une merveilleuse expression. Il cherchait, par la purification et la simplicité de la langue, à la place de chercher une expression poétique, il cherchait des mots qui étaient si clairs qu'il a inventé ce mot merveilleux, des mots rayonnants. C'est des mots vides.
Fawaz Bakker, vous avez commencé à apprécier la musique et le silence très très jeune.
Oui.
Est-ce que c'est vrai que vers 4-5 ans ou 5-6 ans, vous écoutiez les vinyles chez vos parents à Alep?
Oui, oui. Je pense que mon premier souvenir d'enfance, c'était ma tante qui jouait de oud. Ça mm-hmm. devait être vers l'âge de 3 ans. Mm-hmm. C'est la première fois où je me rappelle. Et pendant des années après, je me rappelais de plus rien. Et je me suis retrouvé vers l'âge de 9 ans, 10 ans, sur scène à jouer. En fait, j'ai appris la musique sur scène. Vraiment. Je me rappelle pas du tout.
Et vous avez commencé par l'accordéon?
Oui, entre autres. Hein, non, j'ai commencé par tout ce qui fait du bruit, quoi. C'est vraiment, hein, j'ai inventé, à l'âge de 6-7 ans, j'ai inventé des instruments, parce que j'avais pas des instruments de musique autour de moi. Je suis d'une famille qui ne joue pas beaucoup de musique. J'avais que cette tante-là à qui j'ai fini par lui apprendre comment jouer la oud comme il faut, parce qu'elle n'était pas très bonne du tout. Enfin, elle est morte maintenant. Mais c'est vrai que le son du oud, déjà, le son d'un instrument de musique, c'est quelque chose qui m'a... Je pense que c'est un choc que je vais ramener avec moi jusqu'à la fin.
J'ai l'impression, en vous écoutant, que nous sommes des frères.
Ben oui. Oui.
Vous n'aviez pas forcément d'instrument, Fawaz Bakar, mais vous aviez votre voix.
Oui, je m'enfermais pour réciter le Coran, pour écouter des chansons de Umm Kulsoum. À l'époque, elle était encore vivante et elle sortait des disques. Et c'est vrai que tout ça, ça a été interrompu à un moment donné par l'éducation. Justement, pour revenir sur la question du silence, je pense que c'était un bruit éducatif. C'est-à-dire, j'étais obligé de traverser une dizaine d'années pour apprendre que les notes, ils ont des noms et qu'il fallait lire la musique et il fallait écrire la musique et il fallait... Tout ça, c'était un bruit, en fait, qui m'a empêché quand même. Et il fallait que je fasse mes armes, en fait, après, pour me défendre contre ce bruit-là et retrouver le silence de départ. Heureusement que je l'ai trouvé, en fait, assez rapidement. Et c'est grâce à l'architecture aussi, parce que le vide dans l'architecture... C'est exactement comme le silence dans la musique. C'est-à-dire, pour moi, en fait, il y a la musique, c'est sculpter le silence avec des sons. Et comme vous disiez tout à l'heure, l'architecture, c'est de sculpter l'espace, en fait, avec des objets. Et ce n'est pas de imposer des objets à l'espace. D'ailleurs, les hommes, c'est la même chose, hein. Nous sommes ici pour remplir la vie et pas l'inverse, pas pour la faire.
Peter Brook.
Pour moi, un des plus grands ennemis de la musique aujourd'hui, et c'est lié à ce qu'on apprend avec les professeurs de piano, les professeurs au conservatoire, c'est le métronome. Cette idée qu'on commence en disant, et j'ai vu des chefs d'orchestre qui hurlent, non, ce n'est pas le compte. Il faut compter un, deux, deux et demi, sans reconnaître que la musique n'a rien à voir. Il y a un rythme, et le rythme est le rythme de la vie. Le moment où il y a des règles, et c'est un, deux, deux et demi, oui. Il n'y a plus de musique.
Tout à fait. Le métronome, c'est une référence, et c'est une idée d'ailleurs, une fausse idée, parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps régulier. Ça n'existe pas. D'ailleurs, l'idée du temps, déjà, c'est une invention humaine. Elle n'existe pas dans la nature. C'est-à-dire, c'est parce que notre cerveau, il arrive à enregistrer. Il a quelque chose qui s'appelle le mémoire. C'est pour ça qu'il y a une notion, en fait, qui est très humaine, à mon sens, qui est le temps. Donc, le fait de vouloir découper le temps d'une manière régulière, comme les montres, comme les métronomes, c'est une aberration totale. Je pense que le temps de la musique, de la musicalité, est beaucoup plus juste et beaucoup plus naturel. Voilà.
Est-ce qu'on peut entrer dans ce temps-là, Fawaz Bakar, avec un premier morceau? Peut-être vous pouvez nous dire un mot de ces paroles, puisque c'est un poème d'une femme de Homs, en Syrie.
Oui, du 18e, oui. Du 18e. Le chiffre 4 m'habite en ce moment, depuis quelques mois. Et effectivement, quand on parle du 4, la première chose à laquelle on pense dans le temps, c'est les 4 saisons. Et j'ai choisi tout simplement de faire deux modes qui sont pour moi un mode de l'automne avec lequel je commence. Et le deuxième, c'est le mode du printemps qui est vert. Le premier étant orange, étant un peu triste, mais prometteur. Parce que pour moi, curieusement, en fait, l'automne, c'est une saison qui est très prometteuse. Et c'est vraiment une très, très belle mélodie, très simple, mais très prometteuse sur 9 temps. Voilà, je vais vous le faire.
Donc, triste et prometteur, l'automne.
Oui.
عيد لنا ذكرى الأحباب يا من غدا يسبي القلب عيد لنا ذكرى الأحباب يا من غدا يسبي القلب واروي حديثنا نمطب واروي حديثنا نمطب وانفي بهم عنا الأنصاب وانفي بهم عنا الأنصاب بهم غدا عيشي صافي وحبهم لدائي شافي بهم غدا عيشي صافي وحبهم لدائي شافي والوصل منهم لي كافي والوصل منهم لي كافي فكم وكم عما طلاب فكم وكم عما طلاب
Je suis Fawaz Baker. Nous sommes en studio avec Peter Brook. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron. Sur France Culture.
Le vide rempli de son plein, c'est le plein. Le vide vidé de son plein, c'est le plein. Le plein rempli, le plein rempli de son plein, c'est le plein. Le plein rempli de son vide, c'est le plein. Le plein vidé de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son plein, c'est le plein. Le vide rempli de son plein, c'est le plein. Le plein vidé de son plein, c'est le vide.
On est sorti du poème en musique par Fawaz Baker par un autre poème de Gerhard Shimluka, autre secret du vide et du plein. Peter Brook, vous disiez juste avant d'écouter le chant automnal que vous aimiez le mot prometteur. Vous aimez la promesse.
J'aime exactement comment mon ami a utilisé ça en commençant avec le silence prometteur. Pour moi, ça vibre. Pas besoin de l'expliquer, ça me touche.
Alors au départ, à Alep, dans les années 70, il n'y avait pas que du silence, ou en tout cas, il y avait beaucoup de vibrations, et ça ressemblait parfois à ça. Deep Purple, Fawaz Baker, dans les caves d'Alep.
Oui.
Vous aimiez beaucoup le rock et le hard rock.
Oui,
à l'époque.
Le plus fort possible.
Ah.
Le plus fort possible, le plus de bruit possible, mais dans les caves. Et c'est vrai que, peu importe le volume, toute musique a besoin de silence. Et curieusement, même dans le rock, moi quand j'entends une improvisation de Coltrane, qui est très chargée aujourd'hui, ce que j'apprécie aussi, c'est le silence. Parce que c'est quelqu'un qui arrive à gérer le silence de manière très rapide. Et il les place comme il faut. Donc, oui. Enfin, depuis, j'ai changé. Hein. Et j'ai quand même une vitesse de changement qui est un peu plus rapide que celle-là aussi. Ça, pour moi, ça évoque vraiment des souvenirs de cave et d'enfermement et de passer la nuit à jouer le plus fort possible.
Et pourquoi Fawaz Baker, après être parti à l'étranger, avoir travaillé en tant qu'architecte dans différentes villes, y compris au Caire, vous avez décidé de rentrer à Alep. Vous avez décidé d'enseigner la musique, mais vous aviez refusé plusieurs fois le poste, non, de directeur au conservatoire d'Alep.
Oui.
Pourquoi ?
Je l'ai refusé parce que je pense pas que je suis un bon administrateur, quoi. Tout simplement. Je veux dire, je l'ai refusé parce que il y avait une tension. Voilà, il faut faire un point historique. Je suis désolé, mais ça c'est très important. La musique du monde a beaucoup souffert d'une certaine idée de la musique européenne du 19e siècle. De 18e, 19e, ce qu'on appelle la musique classique en général. Parce qu'elle a été considérée par beaucoup de musiciens, de chez nous d'ailleurs, hein. Il n'y a pas, c'est pas les Européens qu'ils ont, peut-être au départ, je ne sais pas. Et ce qui était considéré comme la seule musique savante possible. Mmh. Et que toutes les autres musiques, ce sont des musiques moindres. Pour moi, je voulais pas prendre position dans tout ce débat-là, parce que je trouve que c'est un débat qui est complètement vide.
Parce que ça, c'était un débat qui était présent à l'intérieur du conservatoire.
Alors, à l'intérieur du
bagarre.
Alors, c'était une bagarre. C'est une bagarre qui existe dans tous les conservatoires du monde. Pour dire, dans toutes les musiques du monde. Heureusement que depuis une dizaine d'années, on est un peu plus à l'écoute des autres musiques, grâce à la musique du monde, etc. Mais enfin, c'est retombé aussi dans des schémas qui sont, voilà, c'est pas le cas. Donc, pour moi, quand j'ai refusé de le faire, parce que je trouvais que j'étais placé dans un endroit où il fallait trancher entre les deux musiques, et j'avais aucune envie de trancher entre les deux musiques, parce que je trouve qu'il y a des bons musiciens, des bons compositeurs partout.
Et comment ça s'est passé alors, quand vous êtes arrivé?
Évidemment, j'ai fini par accepter parce qu'il n'y avait plus personne, en fait. Ils ont réussi à user quand même la ville. À force, il faut dire que c'est un conservatoire qui est énorme quand même, hein. Il y avait 600 élèves, il y a 70 professeurs. Et c'est un conservatoire qui a quand même une histoire qui est assez importante et dans lequel cohabitaient justement les deux musiques. Évidemment, quand je suis arrivé, moi, je voulais que les petites filles qui jouent du piano pour Lise apprenaient le tambour oriental, parce que rythmiquement, ça peut servir pour jouer pour Lise un peu mieux, même dans la version de Beethoven. Je ne veux pas...
Et elles jouaient du piano, elles apprenaient le piano pas forcément pour des très bonnes raisons.
Non, elles apprenaient le piano pour se marier, mais bon, c'est pas parce que papa a acheté un piano, donc... Enfin, c'est pas pour ça que les orientaux, ils sont... Bon, c'est la même chose, hein, je veux pas prendre parti. Et effectivement, quand je suis rentré dans ce conservatoire, les gens de la musique classique disaient que j'allais faire leur part, en fait, parce que je suis très oriental, et les autres, ils disaient que j'étais très occidental. Et effectivement, je suis parti au bout... en étant insulté par tout le monde, ce que je considère comme une réussite, parce que j'ai essayé jusqu'au bout d'essayer de les faire travailler ensemble. Les choses, elles ne sont pas aussi évidentes, mais je continue à le faire. Hein. Et ce n'est pas beaucoup plus facile ici, en France, à vrai dire. C'est-à-dire, d'apparence, c'est possible, mais c'est vrai que c'est très, très difficile de faire travailler les gens. Et les gens se remettre en question, c'est une question très difficile. Réellement. Et les gens, en général, ils ont un discours de liberté, mais des décisions de sécurité. Moi, je préfère l'inverse. C'est-à-dire, Et c'est pas facile, hein. Ça remue beaucoup de choses. Le fait de vouloir travailler les gens qui sont différents. Mais moi, je pense que c'est indispensable parce que nous n'aurons pas le choix. Je pense que toutes les identités du passé sont déjà dépassées. Et pour nous, il va falloir tous, je parle de nous tous, hein, il va falloir qu'on crée nos identités de demain, quoi. C'est une affaire d'artiste, mais c'est une affaire de tout le monde, je veux dire. On ne peut plus consommer des identités figées d'avant, du genre islam ou musicien. Voilà.
Et c'est pour ça que vous aviez, là je me tourne vers le plan que vous avez fait d'Alep, vous parliez de cette maison que vous aviez envie de créer dans la vieille ville pour que des musiciens d'influences différentes se rencontrent.
Alors à la fin de mon échec attendu au conservatoire, que j'adore d'ailleurs, que je considère comme quelque chose de bien, je me suis dit, et pourquoi je n'essayerais pas, pour ne pas être hypocrite, pourquoi je n'essayerais pas de faire la chose moi-même? Et j'ai commencé en fait à réaménager une maison dans la vieille ville pour recevoir des musiciens. J'étais en relation avec des musiciens bretons, comme Éric Marchand, etc., où je pouvais faire venir des bretons. Parce qu'entre nous, les bretons, en fait, entre la musique orientale et la Bretagne, il y a quand même quelque chose de commun, c'est qu'on arrive à faire des belles choses avec des fausses notes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tempérés, qu'ils ne sont pas justes. Entre parenthèses, évidemment.
C'est pour ça que vous êtes parti à Brest.
Oui, bah oui, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyages entre Alep et Brest, en fait, pendant des années. Et c'est vrai que je voulais faire cette maison-là, mais je ne le savais pas, mais je faisais très, très vite. Et je me suis rendu compte après que je faisais la course à la guerre. C'est-à-dire, nous étions en train de courir, la guerre et moi, et il y a la guerre qui a gagné. Et elle a été un peu plus rapide. Voilà. Donc cette maison-là, j'étais obligé de l'abandonner, mais je l'ai abandonnée jusqu'au dernier moment, quoi. Je veux dire, c'est... Et ce projet-là, finalement, je l'ai traîné en France, tout simplement. Hein.
Elle est devenue quoi, cette maison à Alep ?
Alors, curieusement, elle est encore debout dans un quartier qui est complètement démoli. Donc, elle n'est pas habitable, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, il n'y a personne tout autour. Et puis, il y avait des snipers. Elle était sur la ligne de front, quand même, hein, dans la vieille ville. C'est une vieille maison de 300, 400 ans. Et voilà, bah, elle attend. Cette maison, elle attend. Elle a attendu pendant 400 ans. Alors, moi, je ne suis qu'une petite parenthèse dans sa vie. Hein. Donc, voilà.
Et les derniers mois avant que vous partiez, qui étaient les premiers mois de la guerre, c'était quoi l'expérience sonore de ce moment-là ? Parce que le silence était parti, comme vous disiez.
Oui, mais c'était très intéressant. Le temps de guerre est très intéressant parce que ça remet les choses à leur place. Je pense que la dernière année avant de partir, dans la guerre, vous savez, vous n'avez qu'une seule chose, c'est de rester une vie, en vie. La seule chose qu'on vous demande, que votre humanité vous demande, que la société vous demande, c'est de rester en vie, tout simplement. C'est-à-dire manger, boire et rester en vie. Donc il n'y a plus de carrière, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus... Et à vrai dire, pour la musique, c'était vraiment bien. Réellement bien. J'avais tout le temps. La matière première de la musique, c'est le temps. Et j'avais vraiment le temps. Et j'étais obligé de m'enfermer parce que dehors, c'était dangereux. Et du coup, je me suis enfermé dans un endroit où je pouvais faire la musique. Tout le temps. Et je pense que c'est l'année la plus riche de ma vie. Vraiment, réellement. J'étais enfermé, mis à part évidemment tous les malheurs de la guerre à l'extérieur. Heureusement que moi, j'ai eu que des dégâts matériels. Alors, ça va. C'est pas grand-chose, mais c'est vrai que pour moi, c'était très bénéfique. Et tout à l'heure, on parlait de la guerre de l'extérieur. C'est beaucoup plus difficile de vivre la guerre de l'extérieur, réellement, parce qu'on est impuissant. Quand on est à l'intérieur, déjà la résistance, en fait, c'est... Tant qu'on est en vie, c'est plus vivable.
Est-ce que le fait de continuer la transmission, puisque vous avez créé des écoles de musique, des endroits où transmettre la musique au Liban, en Jordanie, dans des camps de réfugiés pour les enfants, c'est une façon aussi de continuer cette résistance-là, de créer et de la musique et du silence dans des lieux qui en sont privés ?
Oui, je pense que c'est inséparable. La pratique de la musique, écrire la musique, pratiquer la musique, jouer la musique, enseigner la musique, c'est la même chose. Je pense tout compte fait, l'expérience de ces trois écoles de musique que j'ai fait dans les camps, j'ai appris beaucoup plus que j'ai enseigné. Parce que c'est un échange. Et j'ai eu les meilleurs élèves de toute ma vie. Parce que ces élèves-là, elles ont très peu de moyens. Donc du coup, ils sont très attentifs. Et j'étais parmi les premières personnes à respecter leur existence humaine, parce qu'ils sont là, ces gamins-là, ils sont là pour être exploités, pour être... je veux dire, ils font partie du décor, et tant qu'ils rapportent de l'argent, c'est bon. À part ça, bon, il n'y a pas un respect. Et du coup, le fait de leur apprendre la musique, sérieusement, il faut que je dise aussi que c'est un apprentissage de musique sérieux, c'est pas pour passer le temps. C'est des écoles à plein temps et ils sont très attentifs et ils ont fait un progrès impressionnant. Impressionnant, c'est des enfants qui n'ont pas d'iPhone et qui n'ont pas d'iPad. Hein. Donc, ils ont une autre écoute quand même.
Peter Brook, vous aviez créé le Mahabharata en 1985 et vous y êtes revenu avec votre dernière création Battlefield pour explorer ce qui, après la bataille, qu'est-ce qu'il y a après la bataille et c'est quoi la responsabilité de ceux qui sont encore là. Vous en parlez dans le livre aussi, c'est une question qu'on vous a souvent posée. Est-ce que vous pensez que ça va changer le monde quand on parle, on fait un travail sur un conflit ou... Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à ça?
On ne peut pas pour une seconde avoir l'illusion que nous, on nous demande est-ce que cette émission que nous faisons maintenant va changer le monde. On n'est pas aussi bête que ça. Tout simplement, on se rend compte. Et c'est ça que, exactement comme vous dites, qu'il faut continuer à vivre. On n'a pas le choix. Et il faut faire confiance à quelque chose qui est dans la conférence des oiseaux qu'on a beaucoup travaillé, ce poème persan, qui est que la moindre goutte de pluie compte.
Oui.
Tout simplement. Et alors, tout ce que nous faisons est de plus en plus modestement, mais dans le vrai sens du mot, tout simplement, avec tous nos moyens d'aider pour une seconde, parce que l'espace théâtral, c'est comme l'espace d'un concert, c'est très concentré, mais très, très court. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle le public peut partager à quelque chose d'une intensité, d'une qualité qu'on ne peut pas avoir dans tout le bruit et le brouhaha et les mouvements et les distractions de la rue, qui est nécessaire. Sans la rue, on ne pouvait pas vivre. Mais il y a un moment où la nécessité de revenir à un point de concentration, et ce point de concentration est donné par la présence des autres qui partagent la même écoute, chez qui s'éveille le même intérêt pour ce qui se déroule à l'intérieur de l'action. Et tout cela possède une intensité, parfois une qualité, parce que c'est très, très court.
Fawaz Bakker, est-ce qu'on peut terminer l'émission en entrant dans le printemps?
Oui, bien sûr.
C'est le deuxième morceau auquel vous avez pensé?
Oui. Oui, bah alors c'est un chant aussi ancien, qui n'a pas d'auteur, qui n'a pas de... Voilà.
Cool.
Peter Brook, vous vouliez ajouter un mot.
Un seul petit mot, parce que je viens de passer un moment merveilleux avec vous deux grâce à cette émission. Mais je voudrais mettre en question le titre de l'émission, parce que je crois que c'est le mot « artiste » pour nous tous est un mot très, très dangereux, comme le mot « création ». Ça me choque terriblement quand on me parle « quelle est votre dernière ou prochaine création ?» Nous ne sommes pas des créateurs, il n'y a eu qu'un seul acte de création dans l'histoire de l'univers. Et de la même manière, artiste, c'est quelque chose qu'on peut peut-être dire à quelqu'un tout à fait à la fin d'une longue, longue vie de recherche. Pour moi, nous sommes tous des artisans. Mmh. Et des artisans qui cherchent que ce que nous essayons, instant pour instant, faire apparaître et une certaine qualité. Et si c'est un boulanger, si c'est un cordonnier, c'est exactement la même chose avec tout l'artisanat. C'est une recherche, grâce à certains moyens donnés, d'aller vers une qualité plus fine. Et c'est déjà une ambition énorme et un défi permanent.
Alors pour vous faire plaisir, Peter Brook, il faudrait qu'on rebaptise l'émission. Une vie d'artisan. Ce serait mieux.
Oui.
On va finir avec deux phrases de Timon d'Athènes, traduites par Jean-Claude Carrière. Je vous ai demandé, Peter Brook, quel passage vous vouliez qu'on lise. Et puis vous m'avez dit, le début, peut-être ça suffit. Le moment où il demande des nouvelles du monde. Alors c'est le poète qui s'adresse au peintre. Et le poète dit, je ne vous ai vu de longtemps. Comment va le monde ? Et le peintre répond, il s'use, monsieur, à mesure qu'il grandit.
Mm-hmm. Hélas, oui.
Je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et merci à la technique ce soir, à Cédric Chatelus et Sébastien Royer. Bientôt, il sera 21h, vous écoutez France Culture, ce sera l'heure de Théâtre et Compagnie avec Blandine Masson.